qu'il y ait les pigments, et l'on pouvait distinguer les différentes couleurs de ce qui avait été peint. Le lapis lazuli pour la cape d'apothicaire, le safran pour la balance, la terre de sienne pour les mains. Sur la partie droite, en revanche, on ne voyait que les couches teintées d'un enduit à la colle, déposées sur le bois. Mais aucune peinture. Et pourtant le glacis était intact. Or, la couche de peinture ne pouvait pas avoir été enlevée sans que le glacis le fût aussi, puisqu'il était la dernière couche qu'on appliquait sur un tableau. Or, sa nature étant identique sur toute la surface du bois, il ne pouvait s'agir de ce côté-là d'un glacis ajouté ultérieurement. Andreas put en tirer une première conclusion. Soit la partie droite n'avait jamais été peinte, soit la peinture avait disparu toute seule sous le glacis, par l'opération d'une magie à laquelle il ne voulait croire. Il décolla son œil de son oculus corpuscula, poussa un soupir et approcha davantage les lampes de la partie droite du tableau. « Attention, maître, l'huile !» lança Robin, pris par l'exaltation, mais au regard courroucé que lui jeta alors Andreas, le jeune homme comprit qu'il avait outrepassé ses prérogatives et rentra une tête embarrassée dans ses épaules. L'apothicaire prit une profonde inspiration et se pencha de nouveau sur le portrait. Lentement, il fit des allers-retours sur le tiers droit du tableau, et il parut de plus en plus agité, comme s'il avait remarqué quelque chose. « Ventre Saint-Gris !» s'exclama-t-il soudain sans se détacher du cylindre. « Robin, ma plume d'oie !» De la main droite, alors que son œil était toujours collé à l'appareil, l'apothicaire se mit à dessiner un trait sur un parchemin. « Que faites-vous, maître ?»« L'enduit a deux teintes différentes sur ce tiers du tableau, si semblables que je ne les ai pas distinguées tout de suite, mais en y prêtant une plus grande attention, on peut voir une ligne de séparation entre ces deux teintes, laquelle ligne, je le crois, si on la suit, pourrait bien nous donner une forme. Et c'est cette forme que vous reproduisez ?» À l'évidence. À mesure qu'il faisait glisser de la main gauche l'oculus corpuscula sur le portrait, Andreas continuait de tracer de la dextre une ligne sur son parchemin. Ici une courbe, là une autre, le trait monta puis s'arrondit vers le côté, avant de redescendre avec force détour, à l'instar d'un fleuve sinueux. Et petit à petit se dessinait une espèce d'énigmatique cartographie, comme le chemin secret vers un trésor. Quand il eut fini, Andreas se redressa et inspecta le résultat. Il fit un pas en arrière. D'emblée, il vit que la forme qu'il avait tracée confirmait ses suppositions, et il ouvrit un large sourire. C'était à n'en pas douter la silhouette d'un personnage. « Par Pythagore !» s'extasia l'apothicaire. « C'est de la thaumaturgie !» Robin, qui n'était pas tout à fait sûr de comprendre ce que sous-entendait son maître, fit sa propre supposition. Il y a un personnage caché dans le tableau? Andreas lui offrit alors un visage si lumineux qu'il en était presque inquiétant. Pas du tout, mon garçon. Le personnage n'a pas été caché. Il a disparu. La réponse n'apaisa nullement la consternation du jeune rouquin. Mais avant qu'il ait pu demander à son maître quelque éclaircissement, ils furent tous deux surpris par trois coups violents qui venaient de l'ouvroir. Le visage d'Andreas se rembrunit. Lambert et Marguerite étaient couchés depuis longtemps. La France entière, parbleu, était couchée depuis longtemps. « Sans doute quelqu'un venu chercher un médicament ?» supposa Robin. « Non. » L'apothicaire, présumant une affaire plus sombre, enferma précipitamment tableau et cylindre dans ce placard dont nous avons parlé et où il conservait loin des regards ses loques de diacode. Puis, il sortit du laboratoire. Robin, le front soucieux, lui emboîta le pas. Alors qu'ils se dirigeaient l'un derrière l'autre vers l'ouvroir, trois nouveaux coups plus forts encore retentirent. « Maître Saint-Loup, au nom du roi, ouvrez !» Andreas s'approcha de la porte, ouvrit le Judas et jeta un coup d'œil au dehors. Il reconnut sans peine le visage de Jean Ploibauche, prévôt de Paris, et comme l'homme était accompagné de deux sergents, il comprit qu'on allait l'emmener. Aussitôt, il se retourna et attrapa son apprenti par les épaules. « Robin, lui intima-t-il à voix basse, cache-toi dans la salle à manger, et demain, tu iras voir l'abbé Boussel à Saint-Magloire, et tu lui diras que j'ai besoin de son aide. »